Vous êtes bien à l'écoute de RFI, il est 20h à Paris, 19h en temps universel.
Charlotte de Rouen.
Bonsoir à toutes et à tous. Depuis Jérusalem, le secrétaire d'État américain Marco Rubio et le premier ministre israélien ont affiché un front uni contre le Hamas et l'Iran. Une visite qui coïncide avec l'arrivée d'une cargaison d'armes lourdes américaines en Israël. Cargaison débloquée par Donald Trump. Ces tensions entre le Hezbollah et les nouvelles autorités politiques libanaises. Des tensions sur fond d'interdiction d'atterrir pour des avions iraniens à l'aéroport de Beyrouth. Explication à suivre. Face au changement climatique, planter des arbres en ville, l'idée est bonne, oui, mais encore faut-il bien sélectionner les espèces, notamment celles qui résistent aux fortes chaleurs. Et puis en France, une sculpture en bronze de Camille Claudel, vendue plus de 3 millions d'euros aux enchères. L'œuvre avait été retrouvée un peu par hasard dans un appartement parisien. 3 heures d'entretien et des déclarations conjointes qui montrent qu'Israël et les États-Unis partagent les mêmes positions concernant le Hamas, l'avenir de la bande de Gaza et l'Iran. Israël finira le travail contre la menace iranienne avec le soutien des États-Unis, a dit le premier ministre israélien aux côtés du secrétaire d'État américain Marco Rubio. Benjamin Netanyahou a aussi évoqué une stratégie commune avec Donald Trump sur l'avenir de la bande de Gaza, saluant à nouveau la proposition du président américain d'en prendre le contrôle et d'en chasser ses habitants, des déclarations totalement contraires au droit international. En tout cas, cette première visite du secrétaire d'État américain au Moyen-Orient intervient en même temps qu'une importante livraison d'armes lourdes américaines à Israël. Muriel Paradon.
Le ministère de la Défense israélien a envoyé à la presse internationale des images de nuit sur lesquelles on peut voir des conteneurs débarqués d'un bateau et chargés sur des camions. Cela se passe, nous dit-on, au port d'Ashdod, à une trentaine de kilomètres de la bande de Gaza. Ces cargaisons contiennent des bombes lourdes de type MK-84, selon le ministère. Des bombes à fragmentation particulièrement destructrices, elles sont soupçonnées d'être à l'origine des dégâts considérables à Gaza et du nombre très élevé de victimes. Plus de 48 000 morts, en majorité des civils. Joe Biden avait suspendu la livraison des bombes lourdes, mais depuis, Donald Trump est arrivé à la Maison-Blanche. Il a approuvé début février une vente d'armes à Israël pour un montant de 7,4 milliards de dollars. En communiquant sur cette livraison aujourd'hui des bombes MK-84, l'État hébreu envoie un double message. Le soutien des États-Unis est indéfectible et c'est un avertissement au Hamas, alors que la trêve reste fragile à Gaza. La guerre peut reprendre à tout moment.
Le Hamas qui accuse Israël d'avoir violé justement la trêve à Gaza ce dimanche après une frappe qui a tué 3 policiers dans l'enclave palestinienne. L'armée israélienne dit avoir ciblé des hommes armés. Le Hamas qui accuse aussi Israël de bloquer l'entrée de préfabriqués et d'équipements de déblaiement des décombres dans le territoire en ruine. L'armée israélienne dit aussi avoir mené aujourd'hui des frappes aériennes visant des sites du Hezbollah au Liban, des frappes dans l'est du pays, dans la vallée de la Beka, selon l'agence de presse libanaise. Le chef du mouvement chiite, Naïm Qassem, appelle ce soir le gouvernement libanais à refuser toute présence militaire israélienne sur le territoire libanais après la fin du retrait prévu le 18 février dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu. Naïm Qassem qui a aussi regretté la décision des autorités libanaises d'interdire l'atterrissage d'avions iraniens à l'aéroport de Beyrouth. Signe d'une crise de confiance entre le Hezbollah et les nouvelles autorités politiques, Paul Khalife.
Cheikh Naïm Qassem a déclaré ce dimanche que la décision a été prise par Beyrouth après une mise en garde américaine sur l'intention d'Israël de bombarder les pistes de l'aéroport en cas d'atterrissage d'avions iraniens. Le chef du Hezbollah a appelé le gouvernement à revenir sur cette mesure et à refuser au nom de la souveraineté nationale ce qu'il a appelé les dictats israélo-américains. Cette affaire a provoqué de fortes tensions sur le terrain depuis jeudi dernier. Samedi, le Hezbollah a publiquement demandé à ses partisans d'organiser un sit-in de protestation au cours duquel des incidents ont éclaté et des tirs de gaz lacrymogène ont été effectués par des soldats. Dans un communiqué publié ce dimanche, le parti chiite a pour la première fois critiqué l'armée libanaise et appelé à l'ouverture d'une enquête pour déterminer les responsabilités dans ce qu'il appelle la répression d'un rassemblement pacifique. Autre point de divergence entre le parti chiite et l'armée, la gestion de la question du retour des habitants du sud du Liban. Le Hezbollah a appelé les habitants à se rassembler pour entrer dans les villages encore occupés par Israël, alors que l'armée les exhorte à faire preuve de retenue et de patience. Paul Khalife, Beyrouth, RFI.
Et alors que Donald Trump entend négocier en Europe la paix en Ukraine directement avec la Russie et sans les Européens, le président français Emmanuel Macron recevra demain à l'Élysée une dizaine de dirigeants européens, les chefs de gouvernement de l'Allemagne, du Royaume-Uni, d'Italie, de la Pologne, de l'Espagne, des Pays-Bas et du Danemark. Le secrétaire général de l'OTAN sera aussi présent au menu des discussions, donc la sécurité européenne. Seuls les Ukrainiens peuvent décider d'arrêter de combattre, a indiqué aujourd'hui le chef de la diplomatie française. Ils n'arrêteront pas tant qu'ils ne seront pas sûrs que la paix qui leur est proposée sera durable et qu'ils n'auront pas de garantie de sécurité, a dit Jean-Noël Barrot. Face au changement climatique et aux vagues de chaleur de plus en plus nombreuses, de nombreuses villes à travers le monde s'engagent à planter des arbres. Les grandes agglomérations se fixent des objectifs. En volume uniquement, 30 000 arbres, 1 million d'arbres, mais dans une étude publiée sur le site The Conversation, trois chercheurs français et québécois indiquent qu'il n'y a pas que le nombre qui compte. D'autres paramètres doivent absolument être pris en compte pour que la mesure soit efficace, Lucille Limbert.
Si on regardait nos villes depuis le ciel, il faudrait qu'il y ait 40% de couverture végétale, 30%. En réalité, il n'y a pas de chiffre magique, car il faut prendre en compte la densité de population, de bâtiments et le climat propre à chaque cité. Les chercheurs invitent aussi les agglomérations à établir leur plan de verdissement en fonction des objectifs de réduction des températures qu'elles veulent obtenir. Surtout, il faut choisir les bons endroits. Un arbre grandit, survit aux aléas et se reproduit s'il a accès à la quantité d'eau, de lumière et d'azote qui convient à son espèce, trop ou trop peu, et la végétation ne rendra plus les services escomptés. En milieu urbain, ces paramètres peuvent changer radicalement en quelques dizaines de mètres. Et puis, il faut planter auprès de celles et ceux qui en ont le plus besoin. Aujourd'hui, les citadins les plus pauvres, qui sont les plus exposés à la pollution et aux chaleurs extrêmes, sont les moins bien pourvus en végétation. Pour rendre vivables nos villes à long terme, diversifions aussi les essences d'arbres. Cela rend la forêt urbaine moins vulnérable aux maladies et aux insectes. Et choisissons des arbres qui pourront s'adapter au climat de 2050 et notamment à la sécheresse.
Précision signée Lucille Jambert. En France, un homme armé de sabre grièvement blessé par balle par un policier. Les faits se sont déroulés en fin d'après-midi près de Paris. L'individu a refusé de poser ses armes. Les policiers ont donc fait feu. Son pronostic vital est engagé. Une sculpture en bronze de Camille Claudel, vendue 3 100 000 euros aujourd'hui aux enchères, intitulée L'âge mûr. Elle met en scène la tragédie amoureuse entre Claudel et le sculpteur Auguste Rodin. L'œuvre a été retrouvée par hasard en septembre dernier dans un appartement parisien inhabité depuis 15 ans, Marius Roland.
370 personnes étaient présentes sur place ce dimanche dans cette salle aux enchères du Conservatoire d'Orléans. Le bronze nommé L'âge mûr a finalement été octroyé à un mystérieux acquéreur au téléphone. 3 100 000 euros, soit 1 million de plus que les estimations hautes. Mais pour Mathieu Semon, commissaire-priseur de la maison de vente Philocal, tout cela dépasse l'argent.
C'est énorme. Après, c'est la magie des enchères. On était sur un objet qui, à mes yeux, par l'émotion qu'il avait suscité, était quasiment inestimable. Quelle valeur donner à un objet d'art qui porte autant d'émotions?
C'est justement Mathieu Semon qui avait trouvé la sculpture en septembre 2024. Elle se trouvait dans un appartement dans le noir depuis 15 ans, à côté de la Tour Eiffel, à Paris. Il était venu faire l'inventaire des lieux avant de tomber des nues face à cet original caché dans la poussière sous un drap. En tant qu'intermédiaire, il se réjouit de la transmission de ce patrimoine.
Moi, je suis habitué à ce que, de toute façon, que cet objet ait un devenir dans un autre endroit, dans une autre collection, chez un autre propriétaire qui continue sa vie à droite, à gauche, en France, à l'étranger. Il s'agit d'un marché sur lequel il y a de l'offre et de la demande.
C'est la deuxième vente la plus importante pour une œuvre de Camille Claudel. En 2013, une autre première version de la sculpture La Valse avait été adjugée à 5,2 millions d'euros à Londres.
En football, Nice a repris la troisième place au classement de Ligue 1 ce dimanche grâce à sa victoire au Havre 3-1.